Il est facile de se perdre dans n'importe quel grand hôpital. Mais Hodges est venu ici des tas de fois. Et maintenant, c'est plutôt lui qui renseignerait les gens que le contraire. L'ascenseur du parking le ramène au niveau d'un passage couvert. Le passage couvert le conduit dans un hall d'entrée grand comme une gare. L'ascenseur du couloir A l'emporte au deuxième étage. Un passage aérien lui fait franchir Kinner Boulevard et le conduit à sa destination finale, où la peinture sur les murs est d'un rose apaisant et l'atmosphère feutrée. Le panneau au-dessus du bureau de la réception indique « Bienvenue à la clinique des traumatisés du cerveau de la région des Grands Lacs. L'utilisation de téléphones portables et de tout appareil de télécommunication est interdite. Contribuez au maintien d'un environnement silencieux. Nous vous remercions de votre coopération. » Hodges se dirige vers le bureau où son badge de visiteur l'attend déjà. L'infirmière-chef le connaît. En 4 ans, ils sont presque devenus de vieux amis.
« Comment va la famille, Becky ?»
Elle répond que tout le monde va bien.
« Et le bras du fiston ?»
Elle répond que ça va. On lui a enlevé son plâtre et il pourra retirer son écharpe d'ici une semaine, 2 au maximum.
« C'est bien. Mon petit gars est dans sa chambre ou en rééducation ?»
Elle répond qu'il est dans sa chambre. Hodges longe le couloir jusqu'à la chambre 217, où un certain patient réside aux frais de la princesse. Avant de l'atteindre, Hodges croise l'aide-soignant que les infirmières appellent Bibli Hall. Il a la 60aine, et comme à l'accoutumée, il pousse un chariot rempli de journaux et de livres de poche. Depuis peu, un ajout a été fait à son petit arsenal de distraction. Un casier en plastique rempli de livres électroniques.
« Salut, Hal, » dit Hodges. « Comment ça va aujourd'hui ?»
Hal, d'ordinaire bavard, semble à moitié endormi cet après-midi et il a des cernes violets sous les yeux. « La nuit a été rude pour certains, » pense Hodges en souriant intérieurement. Il connaît les symptômes, pour en avoir vécu de rude lui aussi. Il imagine un instant claquer des doigts devant les yeux de Hal, à la manière d'un hypnotiseur de cabaret, puis décide que ce serait vache. Laissons cet homme venir à bout de son lendemain de cuite en paix. S'il est encore aussi vasouillard cet après-midi, Hodges n'ose pas imaginer comment il devait se sentir ce matin. Mais avant que Hodges ait passé son chemin, voici Hal qui revient à lui et lui sourit.
« Hé, c'est vous, inspecteur ? Faisait un bail que j'avais pas vu votre trogne dans le quartier ?»
C'est seulement monsieur, maintenant, Hal. Vous vous sentez bien ?
Oui, oui, j'étais juste en train de penser.
Hal hausse les épaules.
Bigre, je sais plus à quoi j'étais en train de penser.
Il rit.
Vieillir, c'est pas un boulot pour les mauviettes.
Vous n'êtes pas vieux, dit Hodges. On a dû oublier de vous annoncer la nouvelle. 60 ans, c'est la nouvelle quarantaine.
Hal renifle.
Si c'est pas la nouvelle du siècle la plus bidon.
Hodges est totalement d'accord. Il désigne le chariot du doigt.
« J'imagine que mon petit gars demande jamais de livres, si ?»
Hal renifle encore.
« Hartfield ? Il saurait même plus lire un album de Petit Ours ?»
Il se tape gravement le front.
« Il n'y a plus que du porridge là-dedans. Mais des fois, il tend la main pour avoir un de ces machins. »
Il se saisit d'une liseuse électronique rose bonbon.
« Ces trucs-là sont livrés avec des jeux. »
Il joue à des jeux ?
Hodges n'en revient pas.
« Oh là là, non ! Ses fonctions motrices sont niquées. Mais si je lui mets une démo, genre Barbie top model ou Barbie va à la pêche, il peut les regarder pendant des heures. Les démos rejouent toujours la même séquence en boucle. Mais qu'est-ce qu'il en sait ?»«
Rien, je suppose. »«
Bonne supposition. Je crois qu'il aime les bruits aussi. Les bips, les boops et les boinks. Quand je reviens 2 heures plus tard... La liseuse est posée sur son lit ou sur l'appui de la fenêtre, écran noir, batterie plate comme une crêpe. Mais c'est pas un problème. Elle est pas morte pour autant. 3 heures de chargeur et c'est reparti pour un tour. Lui, par contre, il recharge pas. Et c'est tant mieux, probablement.
Hal fronce le nez, comme s'il avait flairé une mauvaise odeur.
Peut-être, peut-être pas, pense Hodges. Tant qu'il va pas mieux, il reste ici. Dans une jolie chambre d'hôpital.
Pas terrible comme vue, mais il a l'air conditionné, la télé couleur. et de temps en temps une liseuse rose-bonbon à regarder. S'il était sain d'esprit, capable de participer à sa propre défense selon la définition de la loi, il devrait passer en jugement pour une dizaine de chefs d'inculpation, dont 9 pour meurtre. 10 si le procureur décidait d'y ajouter la mère du salopard, morte empoisonnée. Et alors, ça serait la prison d'État de Waynesville pour le restant de ses jours. Pas d'air conditionné, Antoine.
Ménagez-vous, Al. Vous m'avez l'air fatigué.
Non, ça va, inspecteur Hutchinson. Bonne visite à vous.
Al s'éloigne en poussant son chariot, et Hodges le suit des yeux en plissant le front.
Hutchinson? Bigre, d'où sort-il ça? Ça fait des années que Hodges vient ici, et Al connaît parfaitement son nom. Ou le connaissez?
Bon Dieu, il espère que le bonhomme n'est pas atteint de démence précoce.
Durant les 4 premiers mois, il y a eu 2 gardiens à la porte de la chambre de 117, puis un seul. Désormais, il n'y en a plus aucun, parce que garder Brady est un gaspillage de temps et d'argent. Quand le criminel peut même pas aller aux toilettes tout seul, il n'y a pas grand danger d'évasion. Chaque année, on reparle de le transférer dans une institution moins onéreuse dans le nord de l'État, mais chaque année, le procureur rappelle aux uns et aux autres que ce charmant personnage, cerveau endommagé ou pas, est toujours techniquement en attente de jugement. Il est facile de le garder ici, car la clinique finance une bonne partie de la facture. L'équipe de neurologues, surtout le docteur Félix Babineau, chef de service, trouve que Brady Hartsfield est un cas extrêmement intéressant. Cet après-midi, il est assis près de la fenêtre, en jean et chemise à carreaux. Il a les cheveux longs et aurait bien besoin d'une visite du coiffeur, mais on vient de les lui laver et ils brillent comme de l'or dans la lumière du soleil. Des cheveux dans lesquels une fille adorerait passer ses doigts, pense Hodges, si elle ignorait quel monstre c'était.
Bonjour, Brady.
Hartsfield ne réagit pas.
D'accord, il est en train de regarder dehors par la fenêtre, mais voit-il le mur de briques du parking qui constitue son unique panorama?
Sait-il que Hodges se trouve dans la chambre avec lui? Sait-il seulement que quelqu'un se trouve dans la chambre avec lui? C'est à ces questions que toute une équipe de neurologues aimerait avoir des réponses. Et aussi Hodges, qui s'assied au pied du lit en se demandant « Quel monstre c'était ? Ou c'est toujours ?»
Ça fait une baille, comme disait l'aumônier de marine à la mer supérieure.
Hartsfield ne répond pas.
Je sais, elle est un peu éculée. J'en ai des centaines comme ça. Demande à ma fille. Comment va aujourd'hui?
Hartsfield ne répond pas. Ses mains sont posées sur ses genoux, longs doigts blancs mollement entrecroisés. En avril 2009, Hartsfield a volé une Mercedes-Benz appartenant à la cousine de Holly et au volant de laquelle il a délibérément foncé dans une foule de demandeurs d'emploi au City Center. Il a tué 8 personnes et en a blessé grièvement 12 autres, dont Thomas Saubers, le père de Peter et Tina. Il a ensuite pris la fuite sans être inquiété. L'erreur de Hartsfield, cependant, a été d'écrire à Hodges, alors retraité de la police, pour le narguer. L'année suivante, Brady a assassiné l'autre cousine de Holly, la sœur de la première, une femme délicieuse dont Hodges était en train de tomber amoureux. C'était Holly elle-même, fort opportunément, qui avait arrêté l'horloge interne de Brady en lui réduisant littéralement la cervelle en bouillie à l'aide du happy slapper personnel de Hodges, avant que Hartsfield n'ait pu déclencher le détonateur d'une bombe qui aurait décimé le public adolescent d'un concert pop. Le premier coup de slapper avait fracturé le crâne de Hartsfield, mais c'était le second qui, de l'avis des spécialistes, avait causé des dégâts irréparables. Dans un profond coma dont il avait peu de chances de sortir un jour, dixit le docteur Babineau, il avait été admis à la clinique des traumatisés du cerveau. Et puis, par un sombre soir d'orage de novembre 2011, Hartsfield avait ouvert les yeux et adressé la parole à l'infirmière occupée à changer la poche de sa perfusion. Quand il médite sur cet instant, Hodges imagine toujours le docteur Frankenstein s'écriant « Il est vivant, il est vivant !» Hartsfield
avait déclaré avoir mal à la tête et réclamé sa mère. Le docteur Babineau, appelé sur les lieux, avait demandé à son patient de suivre son doigt des yeux afin de vérifier ses mouvements extraoculaires, et Hartsfield avait été capable de le faire. Au cours des 30 mois écoulés depuis, Brady Hartsfield a parlé en diverses occasions, quoique jamais à Hodges. La plupart du temps, il réclame sa mère. Quand on lui dit qu'elle est morte, il hoche parfois la tête, comme s'il comprenait. Et puis un jour, ou une semaine plus tard, il réitère sa demande. Il est capable de suivre des instructions simples en salle de kinésithérapie et a réappris à marcher, même si ça ressemble davantage à un traînement de pied assisté par un aide-soignant. Les bons jours, il est capable de manger seul, mais reste incapable de s'habiller. Il est classé semi-catatonique. La plupart du temps, il reste assis dans sa chambre à regarder soit le parking par la fenêtre, soit une photo de fleurs sur le mur. Mais au cours de la dernière année, quelques faits étranges se sont également produits qui ont fait de Brady Hartsfield une sorte de légende à la clinique des traumatisés du cerveau. Des rumeurs et des spéculations se sont propagées. Le docteur Babineau n'en tient pas compte et refuse même d'en parler. Mais certains des aides-soignants et autres infirmières et infirmiers s'épanchent volontiers. Et un certain inspecteur de police à la retraite s'est montré un auditeur avide au fil des années. Hodges se penche en avant, main pendant entre les genoux, et sourit à Hartsfield.
« Tu joues la comédie, Brady ?»
Brady ne répond pas.
« Pourquoi tu te fatigues ? D'une façon ou d'une autre, tu vas passer le restant de ta vie enfermé. »
Brady ne répond pas, mais une de ses mains se soulève lentement de ses genoux. Il manque se planter un doigt dans l'œil, puis atteint son but et écarte une mèche de cheveux de son front.
« Tu veux pas me demander où est ta mère ?»
Brady ne répond pas.
Elle est morte, en train de pourrir dans son cercueil. Tu lui as refilé du poison pour les rats. Elle a dû vachement souffrir. Tu l'as vue souffrir? T'étais là? Tu l'as regardée?
Pas de réponse.
Ohé, Brady, t'es là? Toc, toc, toc?
Pas de réponse.
Je crois que t'es là. J'espère que t'es là. Hé, je vais te dire une chose. J'ai été un buveur sévère. Et tu sais ce que je me rappelle le mieux de mes années de boisson?
Pas de réponse.
Les lendemains de cuite. La lutte pour sortir du lit avec un cognement dans la tête comme un marteau sur une enclume. Aller vidanger le litre du matin en me demandant ce que j'avais fait la veille. Même pas savoir parfois comment j'étais rentré à la maison. Vérifier ma voiture pour d'éventuelles traces d'accrochage. C'était comme d'être perdu à l'intérieur de mon putain de cerveau à chercher la porte pour pouvoir sortir sans réussir à la trouver avant au moins midi. Quand les choses commençaient à s'éclaircir et à redevenir normales.
Ça lui rappelle momentanément Biblial.
J'espère que t'en es là, Brady, aéré à l'intérieur de ton cerveau à moitié déglingué et à chercher la sortie. Sauf que pour toi, il n'y a pas de sortie. Pour toi, le lendemain de cuite, on finit pas de continuer. T'en es là? Bon sang, j'espère bien que t'en es là.
Il a mal aux mains. Il les regarde et voit qu'il les tient tellement serrés que ses ongles lui mordent les paumes. Il relâche la pression et observe les croissants blancs se teinter de rouge. Il rafraîchit son sourire.
Juste pour causer, mon pote. Juste pour causer. T'as quelque chose à répondre ?
Hartsfield ne répond rien.
Hodges se lève. C'est bon. Reste bien assis près de cette fenêtre à essayer de trouver la sortie. La sortie qui n'existe pas. Pendant ce temps, moi je vais sortir à l'air libre et respirer à plein poumon. C'est une belle journée aujourd'hui.
Sur la table placée entre la chaise et le lit, il y a une photo que Hodges a vue pour la première fois dans la maison de Elm Street où Hartsfield vivait avec sa mère. Celle-ci est plus petite et entourée d'un cadre argenté. On y voit Brady et sa maman quelque part sur une plage, se tenant enlacés, joue contre joue. Plus l'air de deux amoureux que de mère et fils. Au moment où Hodges se retourne pour partir, la photo bascule et tombe en avant avec un son mat. Clac. Hodges la regarde, regarde Hartsfield, puis regarde de nouveau la photo tombée à plat sur la table.
Brady.
Pas de réponse. Il n'y a jamais de réponse. Pas à ces questions, en tout cas.
Brady, c'est toi qui as fait ça ?
Rien. Brady a les yeux baissés vers ses genoux, où ses doigts sont de nouveau mollement entrelacés.
Il y a des infirmières qui disent...
Hodges ne termine pas sa phrase. Il repose la photo en position verticale, appuyé sur son petit support.
Si c'est toi qui as fait ça, refais-le.
Rien du côté de Hartsfield. Rien du côté de la photo. Mère et fils en des temps plus heureux. Deborah Ann Hartsfield et son lapin chéri.
Très bien, Brady. À plus dans le bus. Je m'arrache la pâche.
Il s'arrache. Referme la porte derrière lui. Au même moment, Brady Hartsfield lève brièvement les yeux et sourit. Sur la table, la photo bascule de nouveau en avant. Clac.